Avec Ernest Mandel, Alec Nov et Diane Elson, enfin toute une série d'auteurs autour justement des conceptions du socialisme, et notamment sur cette question des prix, dans l'optique du troisième type de modèle autogestionnaire que défend Thomas Couttrou, il y a toute une série de réflexions avec l'idée que de la même façon qu'il faut socialiser le plan, il faut socialiser le marché, et donc ça implique effectivement une réflexion sur les prix. Dans lequel il n'y a aucune raison d'accepter effectivement la formation de prix de marché comme étant la rationalité. Hein. Donc tout dépend de quel bien. On peut parfaitement, je parlais tout à l'heure de la gratuité. Donc il faut d'une part que dans un système, disons, de production autogérée, il y a une comptabilité en temps de travail. Bon. Donc la comptabilité en temps de travail, une comptabilité des coûts, c'est une chose qui ne vous dit pas à quel prix vous distribuez. C'est pas parce que vous... Par exemple, si vous fabriquez des livres, vous fabriquez des ambulances, vous fabriquez des produits pour la santé, vous fabriquez donc toute une série de biens, le prix auquel vous les distribuez dépend aussi d'un certain nombre de critères sociaux. Hein. Donc vous pouvez décider, par exemple, que le prix de l'alcool ne correspondra pas à son coût, mais par contre permettra de distribuer des livres en dessous de leur coût. Hein. Vous pouvez concevoir une gratuité des transports, mais ça ne veut pas dire que personne ne les paye, ça veut dire que c'est une prise en charge socialisée. Donc il faut distinguer la mesure des coûts, qui doit être le plus transparent possible, et une appréciation des prix qui porte au problème de justice sociale, de distribution et d'efficacité. Et là, je ne peux pas donner donc une réponse unique, c'est quelque chose qu'il faut voir non seulement à tâtons et dans un contexte concret, mais en fonction, le prix des chaussures, ce n'est pas la même chose que le prix des livres ou le prix des médicaments. Donc, il faut le discuter concrètement. Et un des éléments institutionnels que mettait en avant Diane Elson, notamment dans son modèle et dans sa réflexion, c'est l'existence d'observatoires des prix, c'est-à-dire qui permettent de rendre transparent à la fois les coûts et les critères de distribution, de façon qu'on puisse évidemment juger de la pertinence des mécanismes de prix mis en place. Alors, je ne voudrais pas entrer dans les aspects trop techniques, mais en tout cas, c'est l'idée d'une transparence des prix, et en tous les cas, le fait que les prix ne sont pas un indicateur unique, ni même central, pour l'orientation des investissements. Il faut un jugement aussi en nature, concret, sur les besoins, sur les priorités, sur la qualité des rapports, sur et l'évaluation des coûts n'est pas simplement monétaire. Hein, donc, ça limite le statut des prix dans ce système-là. Les banques, c'est le même problème. Il y a banques et banques. Alors, dans le système de Yougoslave, disons qu'il y a eu plusieurs phases. Hein. Il y a une phase après le système de planification du type soviétique où il n'y avait pas du tout d'autonomie. Bon, il y a eu l'introduction de fonds, ça nous intéresse dans une réflexion sur ce qu'on pourrait mettre en avant aujourd'hui, par exemple, des fonds sociaux d'investissement qui étaient distincts du budget. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas de banque au sens capitaliste du mot, mais effectivement des institutions financières qui étaient subordonnées aux objectifs planifiés et dont le but était de donner les financements correspondants aux objectifs, donc de gérer la distribution des fonds en fonction des choix planifiés. On peut imaginer que ces grands choix puissent être déterminés publiquement, en toute transparence et de façon démocratique. Ensuite, il y a eu une phase de socialisme de marché, et là, j'ai dit qu'il y a eu une tendance à l'autonomisation du système bancaire avec une logique qui commençait à incorporer une logique finalement de profit. Et ça n'a pas duré longtemps, 65-72, c'est clair, la montée des luttes, des contestations politiques, sociales, syndicales, a produit un tournant dans le régime titiste et une resocialisation du système bancaire à partir de 72, dans la dernière phase. Et dans cette phase-là, les banques ont été renationalisées et subordonnées à l'autogestion des entreprises. Donc elles devenaient des institutions financières tributaire de l'autogestion dans les entreprises. Alors, ça ne donnait pas, je n'entre pas dans les détails ici, forcément, nécessairement une efficacité loin de là. Ça a provoqué, y compris des surinvestissements et de l'inflation. Mais en tout cas, ça n'était plus une autonomisation du système bancaire. Donc, autrement dit, il faut à la fois derrière les banques, discuter de façon concrète comment les financements, je parlais tout à l'heure de socialisation de la monnaie au sens de biens publics, ça c'est un problème. Comment on finance, hein? Et donc, on peut très bien avoir des banques coopératives, plusieurs banques publiques, mais en tout cas, elles doivent être subordonnées à des objectifs transparents de financement.
Merci. Je profite pour dire que, faire un petit minute de pub, que dans ce livre où il y a la contribution de Catherine Samary, la première partie est consacrée aux questions de la transformation d'une économie dans un sens d'un modèle socialiste. Et il y a plusieurs hypothèses dans les contributions sur la question des prix, justement, et la possibilité d'avoir une coordination qui ne passe pas par des prix de marché, hein. Alors, il y a diverses approches de la question. Catherine a exposé la sienne. En gros, ça, il y a des approches, si vous voulez. Toutes ces contributions sont en dehors d'un système de socialisme de marché. Si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas économiste, il y a des modèles de correction, transparence par des prix, et il y a des modèles de manipulation des prix. Hein. Pat Devine, par exemple, propose un système de manipulation par des prix. Alors, évidemment, ce qu'on avait comme prix dans les économies dites socialistes, c'était un système de prix manipulé, mais lui, il propose un système de manipulation décentralisé, et non pas par un mécanisme de planification centralisé, si j'ai compris. Voilà, c'était la fin de la minute qui était citée. Nous prenons donc une autre salve de questions. Écoutez, effectivement, je vous interromps, mais si c'est pour avoir une deuxième intervention, comme la première, pour répéter les mêmes choses, ici ce n'est pas un meeting d'organisation politique. Hein. Alors, si c'est pour interpeller Catherine Samary sur son appartenance militante pour nous expliquer les différences entre la SR et la NCT, je crois que ce n'est pas le lieu pour avoir. Je ne suis pas du tout hostile au débat, mais ce n'est pas le lieu de les avoir ici. Hein.
Poser certaines questions par rapport aux questions de l'économie. Mes camarades ont fait certaines distorsions importantes politiques. En Pologne, par exemple, il y avait une économie planifiée. C'était subventionné par l'Union soviétique. Et mes camarades disent que le mouvement solidaire en Ange était un mouvement socialiste. Et c'était un mouvement de l'Edugou déjà toujours polarisé, mais avec la première conférence en septembre, c'est clair que ce mouvement est devenu pas juste compromis, c'était un mouvement exclusivement pour la restauration de l'Europe et l'idée. C'est embrasser le pape, comme les camarades ont dit, et l'Église catholique. C'est pas très bien pour les gens qui cherchent en perspective de le prolétariat d'admettre que parfois le mouvement ouvrier peut prendre une position réactionnaire contre leur propre intérêt. Mais c'est exactement ça ce qui est arrivé en Pologne grâce à la déformation de stalinisme. Les camarades avaient un camp. Il y avait un autre, les camarades utilisaient le mot camp. En Afghanistan, il y avait la possibilité d'étendre l'économie planifiée dans l'Union soviétique à un pays tellement erreur qu'il n'y avait aucune autre perspective. Il reste toujours juste une mine de troubles dans ce pays. Ce qui, dans cette position, s'était posé clairement quel côté du prolétariat qui va avancer la société des humains dont vous avez parlé. Quel côté? Avec le Moudjahoudine qui massacrait les femmes, qui étaient opposées à l'armée rouge, comme vous étiez avec le CIA ou avec l'armée rouge. C'était une question fondamentale.
Non, je joue les centristes, on ne s'énerve pas. Non, effectivement, ça n'est pas une joute d'organisation, mais nos amis ont posé une question que je repose moi-même gentiment. Est-ce que les bonnes intentions suffisent à justifier une politique? Et est-ce que le fait d'avoir une casquette d'ouvrier sanctifie la personne qui a une casquette d'ouvrier? Donc c'est pas grave,
c'est
on peut continuer à osciller, parce que c'est la nature de ce séminaire entre l'esprit académique et les discussions. Effectivement, évitons de nous lancer des appartenances. Chacun adhère à ce qu'il veut et ça on laisse ça en dehors de la salle.
Pour l'examen des formes différentes des formations volontaires, est-ce qu'il ne conviendrait pas de comme méthode celle des rapports de force à l'échelle mondiale? Je me souviens dans ma jeunesse, nous avions une polémique en disant ce qui a surgi dans ces états de démocratie. Est-ce que c'est le produit d'une révolution prolétarienne qui est inachevée, puisque c'est construit quelque chose à l'échelle mondiale, dépassant le capitalisme, qui doit s'instruire à l'échelle mondiale? Est-ce que c'est vraiment le produit d'une révolution inachevée, ou est-ce que c'est le produit d'une contre-révolution inachevée? Et Staline, agent de la contre-révolution, incapable d'aller jusqu'au bout des tendances contre-révolutionnaires et donc d'instaurer ses privilèges sur la base de la propriété privée, travaille qu'aujourd'hui, Poutine tente d'amener jusqu'au bout, et je voudrais savoir si justement on ne peut pas faire un lien entre la contre-révolution des années 50 et des années 70 et l'avancée de la contre-révolution dans ces pays dans les années aujourd'hui. Est-ce que, disons, la méthodologie des rapports de force à l'échelle mondiale ne permettrait pas justement de pouvoir avancer de façon, disons, concrète et non pas par catégorie, disons, de différents types ou alors là, on a du mal à ça.
Merci. Je profite pour vous demander ceci. J'ai suivi et j'adhère à ton analyse du caractère hybride et contradictoire des sociétés. Tu nous as expliqué de manière, à mon avis, très convaincante ces sortes de dialectique interne qui les caractérisait entre un parti-État qui captait et monopolisait un certain nombre de fonctions cruciales et qui finalement a été un obstacle qui s'est révélé insurmontable, et de l'autre côté des mouvements sociaux et un mouvement ouvrier d'ailleurs qui essayait de réduire l'écart entre la proclamation socialiste et le réel, ce qui déjà nous place dans une trajectoire complètement différente de celle que les théoriciens du totalitarisme veulent nous imposer comme cadre. Peut-on imaginer des ouvriers espagnols réclamer un véritable franquisme contre le franquisme du général Franco, par exemple, ou un véritable mussolinisme demandé par les prolétaires italiens contre le fascisme inadéquat, n'est-ce pas, et bureaucratisé du Duce? Bon, ceci étant dit, dans la définition que tu nous as donnée, parti-État au nom des travailleurs et sur leur dos, moi, il y a quelque chose, en tant que marxiste un peu naïf, là, qui me laisse un peu insatisfait. C'est une définition qu'un libéral pourrait partager. Pourquoi ? Parce que c'est une définition qui ne parle que des superstructures, finalement, ou qui donne un poids, enfin, qui donne le primat, en quelque sorte, aux superstructures. Alors, moi, j'ai rien contre la politique au poste de commande, mais j'ai été en train de me demander si, entre l'analyse que tu as fait des rapports sociaux, de leur caractère contradictoire et de leur dynamique interne, et cette formule algébrique que tu nous as donnée, que je trouve un peu trop superstructurelle, comme je trouvais superstructurelles les formules classiques de Trotsky sur l'état ouvrier dégénéré, même si elles avaient aussi leur mérite, notamment celui de pointer les contradictions et le caractère hybride de ces sociétés, et le fait que d'ailleurs il y avait quelque chose qui était profondément défendable, n'ayant jamais adhéré à ce type de régime de façon quelconque, je peux le dire maintenant, mais ça c'est quelque chose qui m'a toujours laissé un peu sur ma faim.
Ça va?
Une autre.
C'est déjà pas mal. Hein?
Bon, voilà. Dernière.
Voilà. Non, il y a toutes les questions sont. Il n'y a pas de questions sans intérêt et il n'y a pas de questions qui soient vicieuses. Je trouve qu'elles sont toutes intéressantes. Sur Castor, je peux dire. Pardon.
Ah, excusez-moi, je vous ai fait.
Il y a encore une question.
Oui, je vous ai fait.
Merci.
Ça va? Je prendrai ça à la fin avec la question qui a été posée sur aussi ce qui se passait dans les années 70-80, parce que je pense que c'est important donc de les remettre ensemble. Donc d'abord, sur Castoriadis, je dois dire honnêtement que le texte des années 50, je ne l'ai pas en tête, mais je suis tout à fait convaincue que c'est intéressant de travailler et de rediscuter ce que Castoriadis a élaboré. J'ai davantage suivi la fin, donc c'est pas du tout un manque d'intérêt. Je pense qu'il faut le reprendre, tout ça, et mettre notamment la problématique socialisme ou barbarie à l'ordre du jour dans la réflexion et l'analyse critique donc des rapports de cristallisation bureaucratique. Il a un apport, mais ça, je ne l'ai pas fait récemment, donc je ne l'ai pas en tête, donc je ne préfère pas en parler, mais ce n'est pas un manque d'intérêt. En ce qui concerne les... Pardon. L'ensemble des... D'abord, il ne faut pas considérer que la planification apportée et la planification et les rapports à l'Union soviétique sont porteuses et étaient porteuses en Pologne ou ailleurs dans les pays d'Europe de l'Est ou en URSS elle-même, d'un contenu progressiste, point. Elle était porteuse à la fois d'un élément de résistance au capitalisme et en même temps d'un rapport d'oppression et au plan international de subordination, et y compris avec les éléments d'aide conditionnée de l'URSS aux pays satellites, etc. Alors quel est le problème politico-philosophique derrière la discussion un petit peu de ce que vous avez soulevé, c'est-à-dire est-ce que finalement, en voulant chercher le mieux ou la pureté, finalement on ne fait pas le jeu en quelque sorte du pire, hein. Je suis profondément convaincue qu'il faut refuser cette espèce de faux dilemme d'avoir à choisir entre deux mots qui seraient soit l'impérialisme, le capitalisme, la restauration capitaliste actuelle ou le pape, et d'autre part l'Union soviétique telle qu'elle était avec ses rapports de production et de domination qui ont ceci de dramatique que, outre les dégâts, bon, mais c'est des gains qui ont été limités et qui ont tendu à se détériorer et qui n'ont pas été suffisants pour permettre, y compris d'être attractifs au plan national et international pour leur propre population, pour être capable de résister au capitalisme. Ça a été au contraire, y compris l'aspect politique de la répression à Prague et... je reviendrai sur l'Afghanistan tout de suite après, ça a été y compris le repoussoir, l'argument le plus anticommuniste, hein, il a été fourni par Jaruzelski, il a été fourni par les interventions soviétiques répressives dans le monde. Y compris par rapport à l'Afghanistan en 79, il n'est pas du tout question, pas plus qu'il est question sous prétexte de soutenir le mouvement des ouvriers de Pologne, considérer que le poids de l'Église n'avait aucune conséquence, pas plus, il n'est question, en refusant l'intervention soviétique en Afghanistan, de dire que ce qui se passait en Afghanistan et le pouvoir des Moudjahidines et ce qui s'est construit, y compris appuyé par l'impérialisme américain en Afghanistan contre l'intervention soviétique, est quelque chose qu'on peut soutenir. Je refuse d'avoir à faire ce type de choix. Et je pense que ce qui a été l'instrument le meilleur permettant la coalition en Afghanistan de forces, y compris réactionnaires, avec leur instrumentalisation d'apprentis sorciers d'ailleurs par les États-Unis, c'est l'intervention soviétique. Bon, donc c'est contre-productif, ça n'est pas, on ne fait pas plus d'ailleurs que quand les États-Unis interviennent soi-disant au nom de la démocratie contre Saddam Hussein, pas plus on ne peut accepter une intervention d'une grande puissance comme l'Union soviétique au nom soi-disant de la défense du socialisme, alors que c'est en réalité son contrôle sur sa sphère d'intérêt qui est fondamentalement en jeu. Donc là-dessus, c'est la sauvegarde, y compris premièrement de l'esprit critique et de la capacité de résistance et d'invention d'un autre possible qui est en jeu. Et donc ce n'est pas simplement un problème moral abstrait. Alors troisièmement, en ce qui concerne l'aspect infrastructure, je dois dire que je ne suis pas sûre de comprendre. Je comprends bien sûr ce que tu dis si j'en restais à la formule algébrique. Je dis simplement que je pense que dans l'analyse des rapports de production, de distribution, des institutions, de l'État, de la propriété, il faut aller derrière les mots, derrière les catégories économiques, derrière les institutions pour voir les rapports des êtres humains entre eux. Alors la formule règne au nom des travailleurs sur leur dos, tu dis, ça pourrait être utilisé par d'autres que des marxistes. Bon, oui, mais sauf qu'ils n'en feraient pas la même chose. Ils n'en feraient pas la même chose au niveau notamment de la critique et des critères de la critique sur la façon dont fonctionnaient ces sociétés. Parce que quand je dis un fonctionnement, un règne du parti État au nom des travailleurs sur leur dos, ça me permet y compris une analyse de en quoi le potentiel socialiste de ces sociétés était complètement étouffé de ce point de vue-là. C'est pas tout à fait ce qu'un libéral ferait. Hein. Il dirait... c'était le socialisme, parce que le socialisme ne peut pas être autre chose que le règne du parti certes au nom du travailleur, mais pourrait être autre chose. Donc c'est ton analogie polémique, mais me paraît superficielle. Et il est tout à fait... Alors, dans l'articulation infrastructure-superstructure, dans une société dans laquelle, précisément, l'État joue un rôle, non pas superstructurel, mais infrastructurel, dans l'organisation de l'économie, ça me paraît une distinction non pertinente, si tu veux. Le rôle du parti-État structurait totalement... à la fois en doublant tous les organes de la planification, donc l'organisation de l'économie, et en même temps avec des dimensions politiques et idéologiques. Donc je pense que c'est... Par contre, ça permet d'aller au-delà des mots, des concepts et des catégories des institutions pour voir le statut réel des êtres humains. Alors je termine sur les deux interventions qui... Je réponds oui à la question de savoir s'il ne faut pas une réflexion qui est internationale hein, sur les éléments. Alors il y avait plusieurs aspects dans la question. D'une part, est-ce que c'était une révolution prolétarienne inachevée ou une contre-révolution inachevée? Je pense qu'il y a les deux, effectivement, qui se combinent dans le sens où j'adhère toujours à l'analyse du processus révolutionnaire qui se trouve confronté à un système monde capitaliste structuré à l'échelle internationale avec ses dimensions impérialistes et où les révolutions qui éclatent sur la scène nationale sont un maillon d'une chaîne et elles sont donc confrontées forcément à des limites qui étaient effectivement ce que Trotsky analysait en termes y compris de l'impossibilité du socialisme dans une seule dans un seul pays hein, et le fait que quelque part pour pouvoir consolider le processus révolutionnaire qui avait éclaté en Union soviétique il fallait l'extension de la révolution mondiale et je dirais en dernier ressort ça me permet de compléter effectivement ce qui a été dit ici dans la discussion, je pense évidemment qu'un des éléments très très importants de l'échec en dernière analyse, c'est aussi qu'il n'y a effectivement pas eu de relais révolutionnaire victorieux, notamment dans les pays capitalistes développés, hein. Mais il y a eu néanmoins une certaine extension de la révolution. Le fait qu'il y ait eu répression de toute une série de mouvements révolutionnaires et d'aspirations révolutionnaires, notamment dans les années 70-80, est très important. Donc, il y a, oui, un élément de révolution inachevée, de révolution partielle, et en même temps, il y a eu également un processus de contre-révolution. Cette contre-révolution est quelque part aussi confrontée à un élément d'inachevé au sens où, contrairement aux hypothèses qui restaient ouvertes soulevé par Trotsky, la restauration capitaliste et le bilan des quelques décennies d'existence de ce système montrent qu'il n'y a pas eu de cristallisation d'une nouvelle classe cohérente, hein, donc d'un système de contre-révolution qui aboutirait à une nouvelle classe cohérente. Donc c'est une oscillation entre les classes fondamentales et la restauration capitaliste s'est emparée précisément de cette incohérence-là et de la répression contre les ouvriers soulevés de Solidarność, contre le printemps de Prague, etc. Alors, maintenant, dans les années 60, et je vous renvoie notamment à un numéro spécial de la revue Contre-temps qui est sorti en 2008 autour de ce qui se passait à l'échelle internationale, effectivement, dans les années, disons, 68-75, hein, en gros, je pense effectivement... qu'il y a un recul de la réflexion sur plusieurs dimensions. D'une part, en ce qui concerne le système monde capitaliste, il était en crise en son cœur, hein, dans les années 70. À la fois l'ordre mondial impérialiste et colonialiste était contesté de l'intérieur depuis les années 50-60 avec la montée de la révolution coloniale, avec la remise en cause de la domination impérialiste, avec un déclin de l'impérialisme américain dans les années 70 qu'il a malheureusement contrebattu ensuite. Mais il y avait aussi de l'intérieur une contestation sur les questions de la domination des femmes, sur la question de l'oppression sexuelle, sur les questions culturelles, une volonté qui s'exprimait dans les nouvelles générations des jeunes à l'échelle internationale d'une aspiration profonde à un monde qui voulait se libérer de toutes les formes de domination. Et ça incluait les formes de domination capitaliste, culturelle, religieuse, contestataire, donc une contestation qui portait sur bien des dimensions, mais aussi la domination bureaucratique. Et là, ce qui se passait en Yougoslavie en 68, que j'ai décrit dans des articles que vous pouvez trouver dans la revue Contretemps ou dans le numéro, enfin sur dans le bouquin de Sileps sur les années 68 en France, ce qui se passait à Prague, de même que la montée effectivement en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, d'un certain nombre de réflexions d'intellectuels en liaison avec le mouvement ouvrier aussi, sur un socialisme au sens profond du mot, c'est-à-dire à visage humain nécessairement, radicalement démocratique, pénétrant les entreprises et réalisant précisément les promesses en quelque sorte du socialisme. Tout ça était à l'œuvre. Tout ça était à l'œuvre, avec du coup la montée aussi du non-alignement et le refus précisément du monde bipolaire. C'est-à-dire qu'on pouvait se revendiquer du socialisme et être contre l'intervention soviétique à Prague. Hein? Et on a pu développer une solidarité internationale, l'organisation politique dans laquelle je suis, compris, nous avons fait une solidarité internationale à la fois contre le capitalisme, la restauration capitaliste à chaque fois qu'elle s'est manifestée, et en même temps solidarité radicale et systématique avec ceux qui étaient emprisonnés, et notamment nos camarades qui se revendiquaient du socialisme et qui étaient en prison en Tchécoslovaquie après 68 notamment. Donc tout ça, c'était possible. Et donc je crois effectivement qu'à l'échelle internationale, se cherchait, sans qu'il y ait un modèle unique, et je pense que loin d'avoir comme modèle aujourd'hui simplement la démocratie soviétique des années 20, non, ça fait partie de notre bagage, de notre patrimoine, de notre réflexion. Mais il ne s'agit sûrement pas de simplement imaginer et croire que la pensée, l'intelligence, les mouvements sociaux, l'expérience, le stalinisme, tout ça permettrait simplement de prendre ce qui s'est passé dans les années 20 sans aucun apport depuis, alors que au-delà de la contre-révolution stalinienne, un certain nombre de mesures qui étaient prises par les bolcheviks, notamment l'interdiction des droits de tendance et de fraction, notamment la dissolution de la Douma, ont été des éléments que je n'aime pas sur le même plan que la répression stalinienne, mais qui ont facilité la cristallisation bureaucratique. Donc, en défense de la révolution, on commet des erreurs. Et quand on n'a pas, faut les contextualiser, ces erreurs. Il n'y avait pas d'expérience, il n'y avait pas de recul. Il n'y avait pas. Bon, nous, on a aujourd'hui, je disais au début, le recul de toutes ces expériences, la compréhension qu'on peut avoir aujourd'hui des phénomènes de bureaucratisation, toute la force, y compris des aspirations d'émancipation qui sont portées, y compris par les mouvements de libération sexuelle, féministe, la dimension écologique, etc. On doit incorporer tout ça dans la pensée de ce que pourrait être effectivement un monde dans lequel l'économie est subordonnée à la satisfaction des besoins humains dans une planète protégée sur la base d'une émancipation individuelle et collective. Merci.
Merci. Prochaine séance, donc samedi prochain avec Luciano Campora. Pour ceux qui voudraient, qui ne reçoivent pas l'info sur les séances, qui voudraient, ils peuvent mettre leur nom et leur adresse mail ici. Merci beaucoup.
Tu as parlé, tu as dit qu'il faut chercher les rapports entre êtres humains, et pas les rapports
humains. Les êtres humains entre eux, derrière.
Oui, pas seulement, parce que ça c'est des rapports de pouvoir, justement, des rapports politiques. Pas nécessairement de domination, des rapports politiques, disons. Les rapports de production, c'est les rapports entre les êtres humains, mais aussi c'est les rapports aux choses.
Ah non, justement, ce que met en évidence le marxisme, c'est derrière la monnaie, derrière la marchandise, c'est les rapports de...
pouvez prendre en retard, mais c'est l'idée, c'est qu'il y a une seule ligne, et c'est qu'il y a un endormissement. C'est pas facile d'être là.
Tu me passes ton mail, là. J'ai reçu un message, je ne réponds pas au message que je reçois par Facebook parce que c'est un copain qui m'a entraîné en fait pour y mais je veux lui répondre directement, juste en ayant son mail et son ancien mail n'est plus valable.
Je ne l'ai pas en tête.
Je ne l'ai pas en tête. Je t'envoie un mail. Dis-moi ça. Ok.
Je crois que c'est
informel, mais il faut vous demander par contre la preuve administrative. Si vous avez besoin de quelque chose comme une feuille de présence, par exemple, par 8, ça il faut vous demander
directement par 8.
Il faut demander à par 8 pour ne pas après avoir des problèmes. Par exemple.
D'accord, mais donc pas de chute supplémentaire.
A priori non, mais ça il faudrait voir avec Daniel et qui sont donc même avec les services de Paris Ville. Parce que si vous demandez quelque chose après que.
Donc à la limite, vous voudrez que je viendrai donner.
Par exemple, je sais que par moment on a fait ça par rapport à diverses personnes, mais ça dépend vraiment des cas.
Donc tu m'écris là et puis je t'enverrai. Tu me rappelles ce que tu veux. Je dois aller à Montreuil.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'exhaustif?
Oui, il y a plusieurs. Enfin bon, il y a plusieurs choses. Il y a eu un numéro de contretemps, de critique pro avec plusieurs positions là-dessus. Il y a aussi, moi j'ai fait un bilan sur une certaine contention de publicité. C'est au-delà de quoi? Donc tu me dis que les questions se posent.
S'ils sont pas trop peureux.
Mais il avait de l'ancienneté, il pouvait
un petit peu ce qu'il y a. Mais tous les bijoux qui y arrivent, même si c'est pas des lâches, ils n'ont pas intérêt à déclarer.